Radio Kapi.
Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver nombreux pour découvrir ensemble d'autres nouvelles qui ont marqué les dernières heures. Sans plus attendre, voici les principaux titres. L'Observatoire de la Défense publique s'oppose à la levée des immunités de Joseph Kabila par le Sénat. La démarche pourrait diviser davantage le pays. ODEP envisage plutôt un dialogue entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur pour résoudre les problèmes actuels. Affrontement en Ituri ce jeudi, les FARDC et la milice Zaïre, alliés à la Convention populaire pour la révolution de Thomas Lubanga, engagés dans des combats, déplacements massifs des populations signalées. Kisangani, Congo Peace Network en première ligne pour lutter contre les discours de haine et la désinformation. Découvrez dans ce journal comment il encourage la paix et la cohésion sociale avec notre invité héritier Mumbere, chargé des programmes à Congo Peace Network. Restez à l'écoute pour ne rien manquer. Comme indiqué tout à l'heure, l'Observatoire de la Défense publique, ODEP, s'oppose à la procédure de levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila par le Sénat. Son président, Florimond Mouteba, l'a déclaré ce jeudi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Il estime que le moment n'est pas approprié pour lever les immunités de Kabila. Il appelle le président Félix Tshisekedi à dialoguer avec son prédécesseur afin de résoudre la situation actuelle et ainsi favoriser la cohésion nationale en cette période de crise. Écoutons Florimond Mouteba au micro d'Étienne Lissoumbo.
Sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi donc droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ce domaine à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ce ne sont pas bonnes. Parce que au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise et reprise et qui vous a cédé en paix le fauteuil présidentiel. Et vous n'êtes plus à mesure de parler avec lui. Mais est-ce que nous sommes encore entre nous, frères congolais, ou on ne l'est plus? Est-ce qu'au Congo, il manque des gens pour faciliter ce genre de choses?
L'actualité inclut également l'appel de la ministre d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, aux pays membres du Conseil de sécurité, y compris le Rwanda. Elle a exhorté ces pays à respecter le droit humanitaire international en RDC. Cette demande a été exprimée lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle, dont les contenus a été relayé ce jeudi par Radio Okapi. Thérèse Kayikwamba participe actuellement à la conférence internationale sur le maintien de la paix à Berlin en Allemagne. Les détails avec Blaise Ondongala Mayanda.
La ministre congolaise des Affaires étrangères estime que les pays contributeurs aux troupes de l'ONU sont tenus de respecter les droits internationaux humanitaires. Thérèse Kayikwamba pointe du doigt le Rwanda qu'elle accuse de violer l'intégrité territoriale de la RDC.
Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix.
La chef de la diplomatie congolaise rappelle que Kinshasa est prête à poursuivre les pourparlers de paix tant que Kigali et ses supplétifs honorent leurs engagements.
Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo.
Elle souligne également que la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans la partie orientale du pays, où l'armée rwandaise continue de commettre diverses exactions contre la population civile. Thérèse Kayikwamba a par ailleurs profité de sa présence à Berlin pour battre campagne en faveur de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU pour les mandats 2026-2027.
Dans la province de la Tchopo, le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao, annonce l'implantation prochaine de ses des antennes dans les provinces du Bazouélé, du Haut-Ouélé et des Litouri. Dans un communiqué de presse d'hier mercredi, le FRIVAO précise que ces déploiements permettra aux victimes de cette région de la Grande Orientale de faire valoir leurs droits. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'ouverture des antennes du FRIVAO dans ces provinces de la Grande Orientale s'inscrit dans la stratégie visant à rapprocher le dispositif des populations concernées, à améliorer la gestion des prochaines phases d'indemnisation et à garantir une prise en charge de proximité plus équilibrée et plus efficace, souligne les communiqués. Ce document révèle également que depuis sa prise de fonction en août 2024, le comité Chansar Boudoukola a déjà versé des indemnisations à 14 309 victimes dans le cadre de la première phase. À son arrivée, seules 101 personnes certifiées avaient bénéficié de ce soutien. Cette avancée, indique-t-il, témoigne de la volonté du gouvernement congolais à traduire en actes concrets la décision de la Cour internationale de justice en veillant à l'équité, à la rigueur et à la transparence. Dans la continuité de cette dynamique, le FRIVAO annonce également le traitement des dossiers des victimes omises, des cas litigieux, ainsi que l'identification des victimes absentes lors des phases précédentes. Jacques Mkonkoulé, Kisangani, Radio Okapi.
Par rapport aux indemnisations collectives, le FRIVAO annonce l'arrivée imminente du ministre de la Justice et garde des Sceaux, autorité de tutelle, pour lancer les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. En Ituri, des combats ont éclaté ce jeudi matin entre le FARDC et la milice Zaïre, alliée au groupe armé Convention populaire pour la révolution de Thomas Lubanga dans le village de Tchikou, près de Lopa, sur la route nationale numéro 27, dans les territoires de Djougou. Les bilans de ces affrontements n'est pas encore disponible. Cependant, des déplacements des populations, des perturbations du trafic sur la route nationale numéro 27 et la fermeture du marché des Dina ont été signalés. Une attaque de ces mêmes miliciens mercredi à Tchenga a fait 3 morts. Isaac Remoyope nous apporte ses précisions.
C'est depuis 6h ce matin que des détonations d'armes sont attendues vers Lopa et sa périphérie. Les miliciens des Zaïre voulaient empêcher les forces loyalistes de faire des patrouilles dans cette localité et à Katoto, située à une trentaine de kilomètres au nord de Bounia, ce qui a donné lieu à des échanges de tirs entre les deux parties. Les bilans provisoires d'un des militaires des FARDC blessés par balles et les déplacements de certains habitants vers Iga Barrière et Nizi, des localités proches, rapportent des sources locales. Les trafics des véhicules sur la route nationale numéro 27 et les activités au marché de Gina ont été momentanément suspendus. Les casques bleus de la MONUSCO installés à Gina se sont déployés rapidement dans la zone des combats pour la protection des civils qui se trouvaient au marché, rapporte la mission onusienne. Ces forces de la MONUSCO effectuent des patrouilles qui ont permis de rassurer les habitants qui s'apprêtaient à quitter la zone à cause de l'insécurité, mais aussi les usagers de cette route où le trafic a timidement repris vers la fin de la matinée. Signalons qu'un autre groupe de miliciens des Zaïre a fait incursion mercredi à Tchenga. 3 personnes, dont des enfants sont mortes au cours de l'attaque. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et pour boucler ce chapitre, Nord Kivu, des violents affrontements opposent depuis tôt ce jeudi le rebelle du M23 aux combattants Wazalendo dans plusieurs villages du groupement Bouabo et Banyungu situés dans le territoire de Masisi, selon des sources civiles locales, après une attaque des rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 contre les Wazalendo mercredi dans la région. Ces derniers ont lancé une contre-offensive c'est jeudi. D'après des sources de la notabilité locale, les rebelles du M23 venus du chef-lieu du territoire de Masisi, situé à 12 kilomètres plus au nord, ont attaqué et délogé les combattants Wazalendo de ces collines mercredi. C'est jeudi, le volontaire pour la défense de la patrie revient à la charge pour tenter de reprendre le contrôle de ce village. À Kinshasa, l'avenue du tourisme communément appelée Nzela ya Mayi, dans la commune d'Ngaliema, est dans un état de délabrement avancé. Cette situation inquiète les habitants car une forte pluie suffit pour aggraver le problème. Embouteillage, augmentation des prix de transport et bien d'autres désagréments. À chaque pluie, des coulées, des boues et des pierres envahissent la chaussée, rendant la circulation dangereuse. Les véhicules peinent à traverser cet axe crucial et les piétons doivent redoubler de vigilance pour éviter les chutes. Moudoumbi Benjamin s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Un enjeu des travaux publics est envoyé après chaque forte pluie pour dégager les coulées de boue et de pierre. Mais la solution reste temporaire. Les déchets déplacés restent juste à côté de la chaussée. Et les cycles se répètent, témoigne Shekina Ruvogo, habitué des tronçons routiers.
Chaque fois qu'il pleut, il y a des pierres qui tombent sur la route et ça barre le passage. Après la pluie, il y a deux gens qui viennent pour enlever les pierres. Malheureusement, ils ne le mettent que à côté de la route.
Face à cette problématique, Michel Uyumbu, président de la Corporation nationale des ingénieurs des bâtiments et travaux publics, estime que certains paramètres n'ont pas été pris en compte dès le départ. Il explique.
Le problème de l'avenir du tourisme est dû au fait qu'on n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments dans le projet de construction de cette route-là. Est-ce que la route a été construite de manière à ce que les glissements de terrain ont été gérés? Dans ce cas-là, il aurait fallu des travaux de traitement des talus pour éviter ces glissements de terrain-là. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait sur l'ensemble du tronçon.
D'après Michel Uyumbu, deux solutions sont envisageables. Prendre en charge toutes les eaux pour que l'écoulement ou les drainages s'effacent de la bonne manière et aussi assurer la consolidation du talus pour arrêter les éboulements.
Direction le Lualaba pour parler de ces coups d'envoi hier mercredi à Kolwezi de la 6e édition du Katanga Business Meeting par la Premier ministre Judith Suminwa sous le thème Bâtir notre futur, focus sur les objectifs prioritaires. Ces salons économiques réunis des opérateurs des divers secteurs, y compris les mines ainsi que des partenaires et la société civile. Lors de cette première journée, les intervenants ont souligné que le corridor de l'Obito représente une opportunité de développement pour la RDC au-delà d'un simple couloir d'exportation des minerais. Jean Gandou nous fait le point.
Pour Costa Koussaris, initiateur du Katanga Business Meeting, le corridor de l'Obito ne doit pas être une simple voie logistique pour le transport de minerais, mais une occasion pour le développement économique de la RDC. D'après lui, ce couloir peut et doit être l'épine dorsale de l'industrialisation de notre pays. Le représentant de l'AFEC a plaidé pour sa part pour la souveraineté économique du pays. Eric Monga a indiqué que la RDC, au regard de ses potentialités de transition énergétique, écologique et industrielle, offre une opportunité de se positionner comme un acteur central. Pour Madame Roxane de Berling, ambassadrice de la Belgique en RDC, la RDC peut profiter également de son potentiel agricole largement sous-exploité à l'heure actuelle pour lutter contre la sous-alimentation qui frappe plusieurs pays. La gouverneure du Lualaba est revenue sur l'importance du corridor qui est aussi un catalyseur de transformation locale par les effets induits, notamment la création des zones économiques spéciales, la création des gares industrielles et les centres logistiques et des chaînes de manufacturation. Fifi Masuka plaide pour la gouvernance inclusive et souveraine de ce corridor pour qu'il serve en toute priorité aux intérêts de développement de la RDC et non un simple couloir d'exportation de minerais. Et pour la première ministre, le corridor de l'Obito est un symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration régionale pour la transformation locale de minerais en leur conférant une valeur ajoutée.
Parlons santé à présent. Le nouveau vaccin contre le paludisme est désormais disponible dans la province du Maïndombé. Le ministre provincial de la Santé, représentant le gouverneur empêché, a procédé au lancement officiel de l'introduction de ce vaccin dans la vaccination de routine des enfants. Lors de cette cérémonie, Nickel Boko Nimbo a précisé que ces vaccins contre le paludisme est destiné aux enfants âgés de 6 à 23 mois. Il a exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants pour le protéger contre la malaria, l'une des principales causes de morbidité et de décès chez les enfants. Écoutons le ministre provincial de la Santé du Maïndombé, Nickel Boko Nimbo, au micro de Irène Mbomaluzolo.
Cette maladie parasitaire transmise par les moustiques, bien qu'il soit possible de les prévenir et de les traiter, le paludisme reste l'une des principales causes de décès en République démocratique du Congo, avec un impact dévastateur sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Pour relever ce défi majeur, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'introduction du vaccin dans les pays à forte charge du paludisme. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo a décidé d'introduire les vaccins de manière progressive, dont le Maïdom. Le vaccin contre le paludisme sera intégré dans la vaccination des routines, ciblant les enfants de 0 à 23 mois en raison de 4 doses à partir de 6 mois pour la première dose, à 7 mois pour la deuxième dose, à 8 mois pour la troisième dose et à 15 mois pour la quatrième et dernière dose. J'invite alors tous les parents à faire vacciner leurs enfants, ce qui est une preuve d'amour. Ainsi, je lance officiellement introduction des vaccins contre le paludisme dans la province du Maindom.
Rappelons que l'introduction du vaccin contre le paludisme a également été lancée vendredi dernier à Bandundu, dans la province du Kwilu, par le gouverneur intérimaire Félicien Kiwai.
Actualité internationale.
Le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui a dirigé l'Éthiopie pendant près de 3 décennies, perd officiellement son statut de parti politique. La commission électorale éthiopienne a annoncé hier mercredi la radiation officielle du TPLF, Front de libération du peuple du Tigré, des listes des partis politiques du pays. Cette révocation fait suite à une suspension appliquée en février dernier lorsque les TPLF n'avait pas organisé l'Assemblée générale comme l'exige la loi électorale. Le TPLF n'a pas respecté ces conditions, assure la commission dans sa déclaration. De son côté, le TPLF répond que l'accord des Pretoria qui a mis fin à la guerre du Tigré en novembre 2022 lui accorde de facto son inscription en tant que parti politique. Refuser notre reconnaissance légale sape le fondement même de l'accord de paix en Martinique. La formation la semaine précédant leur radiation. Une défense balayée par la commission électorale qualifiant l'argument de non recevable.
L'invité.
À Kisangani, l'ONG Congo Peace Network, basée à Goma, mène une campagne de sensibilisation contre les discours de haine et la désinformation. Mardi dernier, une centaine de personnes, incluant des membres de la société civile, des jeunes et des victimes de guerres et conflits sociaux, ont participé à cette activité organisée au centre Saint-Joseph, plateau Boyoma, dans la commune de Makiso. Pour en savoir davantage, Jacques Moukonkole s'entretient avec Héritier Moumbéré, chargé de programme au Congo Peace Network. Il est notre invité, suivez leur entretien.
Héritier Moumbéré, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cet atelier?
Cet atelier rentre dans la perspective de la mission de l'organisation Congo Peace Network, qui est une structure qui travaille sur des questions de paix avec un focus sur l'engagement des jeunes dans cette question. Après toutes ces grandes années où l'Est de la République démocratique du Congo a traversé énormément de tensions, l'organisation travaille à pouvoir mobiliser et engager les jeunes sur cette question de la paix et de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. C'est dans cette orientation-là que ce forum citoyen vient d'être organisé dans la perspective de mobiliser les forces vives de Kisangani pour faire d'eux des leviers et des moteurs de la construction de la paix.
Et c'est ça l'objectif ou les objectifs que vous poursuivez?
Tout à fait, parce que vous êtes sans ignorer que presque toutes nos provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est 30 années de guerre, de conflits, et tout cela a affecté bien évidemment le vivre ensemble. Alors l'objectif, bien évidemment, c'est de consolider encore cela et commencer à rentrer dans les moindres détails. Comment est-ce que j'arrive à savoir que tout ce que je suis en train de faire, en pensée, en parole et en action, que ça puisse servir bien évidemment de construire la paix plutôt que d'en anéantir.
Votre thème est circonscrit dans un contexte purement électoral. Pensez-vous que le moment actuel soit propice pour ce genre d'activité?
Alors, ce n'est pas seulement à très canalisé dans le contexte électoral, mais aussi post-électoral. Parce que nous avons vu tout ce qu'on a vu lors de nos périodes électorales passées. Et c'est après aussi qu'il y a comme une sorte de résultat de cela. Il y a toujours les résidus de cela en termes d'alimentation des tensions, l'alimentation de violences communautaires. Alors, avec tout ça, nous sommes en train d'agir, mais aussi dans la perspective de prévention. Parce que bientôt, sûrement, il pourra y avoir encore d'autres élections. Alors, si jamais la population elle n'est pas bien informée sur sa responsabilité dans la lutte contre ces violences électorales, ça serait un contexte compliqué, raison pour laquelle nous travaillons aussi par-delà tout à la prévention de ces conflits électoraux. Mais on est dans le contexte où on est dans l'électoral et le post-électoral.
Quelles sont les conséquences qui découleraient de la désinformation ou de la manipulation?
Alors, si jamais on a n'arrive pas à bien gérer la question de l'information. Vous le savez, partout maintenant, c'est des tensions avec la crise que le pays traverse actuellement. Tout le monde pense qu'il a le monopole de diffuser de l'information. Et à un certain moment, ça devient un facteur de manipulation de conscience, des esprits, et ça aboutit au finish à des violences, à des conflits. Et cela, on en a vu avec tous les grands conflits qu'on a connus, que ce soit ici dans la province de Kisangani, que ce soit sur la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema ou même de l'Ituri. C'est cet aspect de la mauvaise manipulation de l'information, des rumeurs, ça devient un facteur qui anéantit et casse les rouages du vivre ensemble. Et ça, il faut commencer déjà à les prévenir bien avant pour qu'enfin on puisse espérer qu'on peut vivre en harmonie et en paix, passer aux questions essentielles qui sont d'ordre du développement local.
Parmi les participants, il y a les victimes de guerre que vous avez aussi ciblées, n'est-ce pas? Pourquoi avoir pensé à elles?
Alors, vous savez, avec tout ce qu'on a connu, ce sont des femmes qui ont été violées, ce sont de personnes qui vivent avec handicap parce qu'ils ont été victimes de guerres, ce sont des déplacés des guerres. Alors, personne ne peut mieux penser et parler de la question de la paix comme ces gens, parce qu'ils savent ce que ça fait. Est-ce que ça veut dire les conséquences de conflits? Alors, il devient illusoire aujourd'hui d'espérer construire la paix si on n'est pas en train aussi de penser comment faire de ces victimes des artisans réels de la paix.
Comment Congo Peace Network pense lutter contre la désinformation et les messages de haine?
Alors, ça, c'est une question de la responsabilité d'ordre personnel. D'abord, il faut se rassurer qu'on a réussi à repérer les sources nécessaires, mais aussi à ne pas avoir la souplesse de pouvoir partager l'information. Toujours est-il que se poser la question, est-ce vraiment ça vaut la peine? Et dès lors qu'on a des réponses positives sur la source, la provenance de l'information, on s'est déjà donné le temps de vérifier l'information, alors on peut arriver à en partager. Avec toujours en arrière-fond ce discernement de dire, est-ce que c'est pour construire ou c'est pour détruire? Tant que c'est pour construire, je partage. Tant que c'est pour détruire, je ne partage pas.
Héritier Mumbere, merci.
Merci beaucoup.
Héritier Mumbere, chargé de programme à l'organisation Congo Peace Network, a discuté avec Jacques Moukonkole depuis la ville de Kisangani sur la campagne de sensibilisation contre les discours de haine et la désinformation lancée par son organisation. C'est ainsi que se termine cette édition du journal sur Radio Okapi. La mise en onde a été assurée par Pierre Diassinois, coordination par Jude Mister Bilanda, supervision par Pélékipé Lamondo et présentation par Gisèle Cage. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. Vous pouvez également consulter notre site web www.radiokapi.net pour des articles détaillés. Passez une excellente soirée.